soir, j'aimerais que nous puissions découvrir un aspect de sa personne, de sa nature, de ses attributs, et découvrir qui il est à partir du premier verset que j'aimerais vous lire maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 19, où il est dit, ce texte que nous pouvons déjà retenir, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Mon thème, mon premier thème, Dieu pourvoit. Ce soir, apprends à connaître le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Je pense que tout le monde est intéressé par cette offre-là. Connaître un Dieu qui va pourvoir à tes besoins, à tous tes besoins, avec richesse et avec gloire. Je pense que personne n'est là pour se retirer, pour dire « Oh, ça ne m'intéresse pas trop, un Dieu qui va pourvoir à tous mes besoins, qui s'engage et qui me dit, qui chuchote à mon oreille et qui crie tout au long de ces jours de cette année, « Je suis le Dieu qui pourvoit à tes besoins. » Je m'engage à cela. Je crois que ça intéresse, c'est une offre qui intéresse tout le monde. Car nous axons souvent notre vie sur nos besoins. Et beaucoup de personnes viennent à Christ parce qu'il y a un besoin à la base. La plupart des gens viennent parce qu'il y avait un besoin moral, un besoin physique, un besoin matériel, un besoin de trouver un sens à ma vie, un besoin de sortir de ces problèmes ou de ces marasmes, de ces fossés dans lesquels on était tombés sans pouvoir s'en sortir. Il y avait un besoin à la base qui nous a fait crier vers Jésus, qui nous a fait tendre la main, et nous avons reçu cette main qui nous a sortis de l'endroit où nous étions, d'un endroit de perdition pour nous établir sur le rocher. Et Dieu veut nous dire et nous rappeler en 2017 et dans toutes les années précédentes, j'ai toujours été le Dieu qui a pourvu à tes besoins, même lorsque tu ne t'es jamais même rendu compte de cela. Dieu pourvoit à nos besoins. Il ne pourvoit pas seulement à nos besoins lorsque nous sommes gentils et lorsque nous faisons tout tout juste. Il est le Dieu qui s'engage à pourvoir à nos besoins. Nous allons voir un peu ce soir s'il n'y a quand même pas des conditions, s'il n'y a pas quelque chose qu'il veut nous apprendre seul. Est-ce qu'il veut seulement nous dire « Ne te fais pas de soucis, fais tout ce que tu veux, je vais pourvoir à tes besoins. » Non, la Bible ne prend pas ce raccourci. Mais par nature, le Seigneur est le Dieu qui, par nature, par sa nature de Père et sa nature de générosité, veut nous dire « Je suis ta providence. Je suis le Dieu que tu peux connaître comme celui qui va pourvoir à tes besoins et qui a toujours pourvu à tes besoins. » Jésus va dire à ses disciples, car les promesses de Dieu sont données à ceux qui lisent la Bible, à ceux qui les découvrent et à ses disciples. Il va donc dire à ses disciples, « Lorsque je vous ai envoyé, sans même prendre des provisions, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ?» Ils vont répondre, « Non, on n'a manqué de rien. » Et si on est authentique avec nous-mêmes, notre vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts et des bas, des temps de largesse et des temps plus serrés. Mais lorsque nous sommes honnêtes, je suis certain que 100% de vous qui êtes là, si nous sommes authentiques et vrais, nous pouvons avoir la même réponse que les disciples. Seigneur, je n'ai manqué de rien. Cela ne veut pas dire que j'ai toujours eu selon tous mes désirs, mais selon mes besoins, Dieu a pourvu. Même dans les moments creux, même dans les vallées, même dans la souffrance, même lorsque j'avais des choses qui me manquaient, Dieu a été là pour, d'une manière surnaturelle ou d'une autre, pourvoir à mes besoins. Il a pourvu. Et la réponse de sa provision, parfois, est en marche. C'est pour ça que la Bible va aussi dire, tu n'as pas besoin d'attendre les bras croisés pour que Dieu pourvoie à tes besoins automatiquement. Mais j'aimerais que tu deviennes partenaire et que tu demandes, et que tu cherches et que tu frappes. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on lui ouvrira. Dieu veut que nous devenions partenaires, et que nous ne soyons pas statiques, et que nous ne soyons pas de ceux qui sont fatalistes en disant « Quoi qu'il arrive, Dieu pourvoira. » Dieu nous veut partenaire avec lui. S'il te manque quelque chose, demande. Si tu as un besoin, présente ton besoin. Et en présentant le besoin, tu vas faire une nouvelle expérience avec Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Mais le Seigneur aimerait nous dire, avant toute chose, je suis le Dieu qui pourvoit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pouvez-vous imaginer que vous avez un enfant de 5 ou 6 ans et qui, le matin, en partant à l'école, prend son cartable, s'en va à l'école et puis avant de refermer la porte pour dire à papa et maman au revoir, il va dire, papa, maman, n'oubliez pas de me préparer un repas à midi. Et n'oubliez pas de me donner à manger ce soir. Et puis, papa, maman, n'oubliez pas de payer mon assurance maladie. N'oubliez pas de payer mon casque, mon bus scolaire pour m'amener à l'école. Est-ce qu'un enfant de 6 ans va partir comme ça à l'école? Certainement pas. Un enfant sait que, par définition, les parents vont pourvoir à ses besoins. Un enfant, tout son parcours d'enfant, va simplement se faire aucun souci. Ses parents sont là pour ça. J'aimerais vous dire ce soir, de la part du Seigneur, ton Père céleste sait si bien ce qui est bon pour toi. Avant que tu lui demandes, il sait déjà ce qu'il doit faire. C'est pour ça que Jésus va dire si souvent, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes des sujets, vous êtes comme un petit roseau qui s'inquiète pour tout et pour rien. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça parcourt particulièrement le sermon sur la montagne. C'est une des choses qui retient vraiment notre attention. Jésus nous dit, ton Père sait ce dont tu as besoin. Mon Père sait. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Mon Père sait ce dont j'ai besoin. Il est par définition, par nature, c'est son titre, c'est son nom. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est ma providence. Il est celui qui pourvoit. Ne vous inquiétez pas. Donc Dieu aimerait se faire connaître par ses noms, par son nom. Et s'il s'appelle le Dieu qui pourvoit, ce n'est pas que nous avons inventé ce nom, mais c'est que lui-même se révèle dans la parole de cette manière. Nous n'avons pas besoin de mettre des définitions sur Dieu. Dieu lui-même vient nous parler de Dieu. Dans sa parole, il révèle ses noms. Je suis le Dieu qui pourvoit. Il se donne lui-même ce nom. Il est ce nom que nous allons découvrir dans un texte particulier. Et cette providence de Dieu va parcourir toutes les pages de la Bible et en particulier l'histoire d'Israël. Vous devez connaître l'histoire d'Israël, vous devez la lire et la méditer. Ne prenez pas juste quelques textes au hasard lorsque vous lisez la Bible, mais lisez-la de manière systématique. Et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, découvrez dans l'histoire d'Israël qui est votre Dieu, la nature de Dieu, ses noms, ses attributs, ses capacités, son caractère. Découvrons au travers de l'histoire d'Israël qui il est. Et l'histoire d'Israël, dans tout ce parcours, ne prenons que l'exemple de cette sortie d'Égypte où Dieu a pourvu à la libération. Ou dans le voyage dans le désert où Dieu a pourvu jour après jour par la manne et par l'eau qui coulait du rocher. Ou encore, comme Moïse va le décrire, mais nous sommes stupéfaits, après 40 ans, nos vêtements ne se sont pas usés et nos chaussures ne se sont pas usés. Pendant 40 ans, porter les mêmes chaussures, porter les mêmes vêtements. Je crois que ce serait un peu pénible aujourd'hui. Mais c'était juste la preuve de la providence de Dieu. Jour après jour, un peuple de plusieurs millions de personnes a été approvisionné par le Seigneur. L'histoire d'Israël dans sa nature, dans ses gènes, porte la caractéristique que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dans notre périple terrestre, nous portons le même message. Ta vie est un message, ma vie est un message. Ma vie est un message. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il pourvoira toujours. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. J'aimerais que ce message, cette parole, devienne une parole de foi qui rentre dans votre cœur. Et vous partiez au début de cette année en disant, Seigneur, il y a devant moi à peu près 360 jours inconnus. je vais rentrer dans le pays, dans le continent de l'inconnu, jour après jour, avec des certitudes, et dont celle-ci, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoira. Pourvoir, ça veut dire voir pour. Dieu voit pour une solution. Il verra ce qu'il doit faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il prévoit aussi. Il pourvoit et il prévoit. J'ai cherché dans mon porte-monnaie pour avoir une pièce de 5 francs, mais je n'en avais plus. Mais si vous en avez une pièce de 5 francs, vous allez découvrir sur le bord de la pièce de 5 francs une inscription en relief en latin. C'est marqué « Dominus providebit ». Dieu pourvoit ou pourvoira. C'est le futur ou c'est le futur ? Dieu pourvoira. Vous imaginez que même sur les pièces de 5 francs suisses, vous avez cette parole avec vous, ne l'oubliez plus. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. On va revenir à la Bible, non pas aux finances, mais à la Bible. Le Seigneur nous dit, je vais pourvoir. Présente tes besoins. Je te veux participant. Je veux que tu ne sois pas simplement comme cet enfant de 6 ans qui part sans inquiétude dans la journée. Il sait que papa, maman s'occupent de tout. Ils vont payer mes factures. Ils vont faire à manger. C'est bien parce que cette relation de l'enfant face aux parents à cet âge-là, l'enfant est occupé par autre chose. Il n'a pas la capacité de s'inquiéter ou de découvrir. Mais comment papa il fait pour payer tout ça ? Il ne se pose pas ce genre de questions, c'est plus tard qu'il se pose ces questions. Et Dieu voudrait de la même manière nous emmener avec lui. Viens, j'aimerais que tu découvres qui je suis vraiment. Maintenant tu as fait l'expérience que je pourvois tes besoins, mais j'aimerais que tu puisses t'émerveiller devant le Dieu qui est ton Dieu, ce Dieu qui s'appelle « Je suis celui qui pourvoit », que tu puisses t'émerveiller, que tu puisses m'adorer pour cela, tu puisses vraiment être étonné qui je suis vraiment. Et pour cela, je voudrais que tu puisses être partenaire avec moi. Il te manque quelque chose. Ou bien tu vois ton frère ou ta sœur, ou tu vois quelqu'un qui a un besoin. Je voudrais que tu viennes vers moi et que tu fasses une demande. Que tu apprennes à prier. Que tu apprennes à chercher. Parce que ce serait trop facile et la vie ferait de toi un pourri gâté si tu recevrais chaque fois directement selon tes demandes. Tu as besoin d'apprendre, d'attendre. Tu as besoin d'apprendre à patienter. C'est difficile, hein? Tu as besoin d'apprendre à ne pas recevoir toujours immédiatement ce que tu veux. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de faire un chemin, tu as besoin de découvrir d'autres valeurs que tes propres besoins. Tu as besoin de te détourner de toi-même pour découvrir que d'autres ont aussi des besoins. Que ta vie se décentre de toi pour se centrer sur les autres. Demande, cherche, frappe. Demande du pain pour quelqu'un d'autre. Comme cet homme qui est dérangé au milieu de la nuit par quelqu'un qui n'a pas de pain et lui-même n'a rien, donc il est embêté par cette demande. Mais pour finir, il s'en va vers quelqu'un qui a du pain. Il lui dit, prête-moi 3 pains pour que je puisse les donner à l'autre qui n'a rien. Si tu viens vers Dieu, Dieu aimerait te dire, viens avec moi, je vais te montrer les besoins du monde autour de toi. Ça, c'est des besoins. Moi, je pourvois tes besoins, mais ça, c'est des besoins. Eux, ils ne connaissent pas le Père. Toi, tu me connais et tu vas prier pour eux. Tu vas pourvoir, tu vas devenir bénédiction pour eux. Je vais t'utiliser pour devenir une réponse pour eux. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez devenir une réponse pour quelqu'un qui peut-être ne connaît rien de la présence de Dieu et qui aimerait aussi être touché par la providence de Dieu ? Soyez un canal, devenez bénédiction pour quelqu'un. Ne centrez pas votre vie sur vous-même. Dieu pourvoit vos besoins. Dieu pourvoit mes besoins. Mais le monde autour de nous est un monde affamé, assoiffé et vide, un désert spirituel. Il a besoin de connaître la providence de Dieu. Il ne connaît pas le Seigneur. Oui, ils ont une vague idée de qui pourrait être Dieu. Mais la Bible nous révèle qui il est vraiment. Ce soir, demande pour quelqu'un d'autre. Cherche pour quelqu'un d'autre. Frappe à la porte. J'aimerais aborder 2 points bien spécifiques. Connaître le nom du Seigneur qui se révèle en disant « Je suis l'Éternel qui pourvoit pour toi ». Dieu se révèle de cette manière dans toute la Bible pour ceux qui vivent dans son alliance. Dieu pourvoit si tu vis dans l'alliance. Dieu pourvoyait pour Abraham parce qu'il était dans l'alliance. Dieu pourvoyait pour Noé, il était dans l'alliance. Dieu pourvoit pour Israël parce qu'il était dans l'alliance. Dieu pourvoit pour toi si tu es dans l'alliance en Jésus-Christ. Sois et vis et reste dans l'alliance avec Dieu. Alors, tu peux être sûr et certain que Dieu va toujours pourvoir. Pourquoi ? Parce que dans l'alliance, il y a un engagement mutuel. Dans l'alliance, il y a un don total de l'un envers l'autre. Deux partenaires sont contractuellement liés par un engagement total. L'alliance avec Dieu, c'est pas je fais quelques pas et lui fait quelques pas vers moi et on s'arrange pour un accord, pour un contrat. Non, l'alliance, ce n'est pas un contrat, c'est plus qu'un contrat. L'alliance, c'est un 100% vers Dieu. Et Dieu me dit, c'est un 100% vers toi. Nous sommes liés 100% l'un et l'autre. Et dans cette alliance, dans cet engagement, moi je suis engagé envers toi. Et je me promets de pourvoir à tes besoins. Lorsque nous sommes dans une alliance, nous allons prendre soin de celui avec qui nous sommes dans l'alliance. Ceux qui sont dans un mariage sont dans une alliance de ce type-là. Vous êtes engagé de pourvoir aux besoins de l'autre. D'ailleurs, vous le promettez ou vous l'avez promis à l'état civil, à la mairie. Vous promettez quelque chose. Vous déclarez quelque chose devant l'autorité civile. Le code civil suisse demande que les époux se doivent mutuelle assistance, doivent habiter sous le même toit, doivent se rendre service. C'est des choses normales, mais qui sont légalement décrites dans les lois suisses, dans les lois françaises aussi, dans les lois des autres pays aussi. Il y a un engagement contractuel entre les deux parties. Et le Seigneur nous dit, si je t'appartiens, si tu m'appartiens et que je t'appartiens, je suis engagé avec toi. Et je suis engagé et je suis obligé de pourvoir à tes besoins. Dieu s'engage dans l'alliance à pourvoir à mes besoins. C'est extraordinaire. Il s'engage avec toi lorsque tu vis dans l'alliance. Si tu restes à distance, Dieu, dans sa grâce et sa bonté et sa générosité, peut encore pourvoir à tes besoins. Mais la Bible ne me donne pas beaucoup de promesses par rapport à juste ça. Par contre, si tu es dans l'alliance, tout ce livre est de ton côté, c'est ton héritage complet. Tu reçois toutes les promesses. Dieu te dit, je vais pourvoir à tes besoins dans la mesure où toi et moi, nous sommes dans une alliance claire. L'alliance, nous la signons, nous la reconfirmons à chaque sainte cène que nous prenons. Nous la confirmons, bien sûr, d'une manière publique et solennelle, dans les eaux du baptême. Mais avant ou même après, nous pouvons toujours renouveler notre alliance quand nous voulons. Quand nous voulons. L'alliance, c'est l'engagement. L'alliance veut dire, Seigneur, je te remets ma vie. Je te donne ma vie avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je sais faire, avec tout ce que je suis. Je te donne tout. Et le Seigneur me dit, je te donne tout également. Je te donne ce que je suis, je te donne ce que j'ai, je te donne mes promesses. Tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. C'est ce que le Père disait au Fils prodigue lorsqu'il est revenu. Tout ce qui est à moi est à toi. Ne te plains pas. Tu es dans l'alliance. Et dans l'alliance, tu es rassuré. Alléluia. Soyez rassurés, mes frères et sœurs, ce soir. Si tu vis dans l'alliance, les inquiétudes ne doivent pas miner ta vie. Ne doivent pas plomber ta vie, ne doivent pas freiner ta vie, ne doivent pas te préoccuper. Si tu vis dans l'alliance, donc si tu vis dans sa volonté, alors le Seigneur te dit, je m'engage à pourvoir à tes besoins. Mais cela ne fait pas de nous des êtres irresponsables. Nous ne sommes pas des êtres irresponsables. Nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, simplement des gens statiques et qui ne font rien, qui laissent juste venir. Nous ne sommes pas fatalistes. Nous sommes toujours engagés pour être partenaires avec Dieu. Et si Dieu nous dit, mais moi je te dis aussi, pourvois tes besoins toi-même. Travaille. Ça aussi, c'est la Bible qui le dit. Il dit aux chrétiens, si tu n'es pas appelé à te laisser couler et puis à dire, oh, d'autres vont pourvoir pour moi ou l'État va pourvoir pour moi. Ça, ce n'est pas l'attitude normale du chrétien. L'attitude chrétienne, l'attitude de l'enfant de Dieu, si tu as des faiblesses, si tu as une maladie, Seigneur, j'ai besoin de santé pour travailler et pour soutenir ma vie, mais aussi d'autres autour de moi. Seigneur, j'ai besoin non seulement de survivre, j'aimerais vivre, Seigneur, la vie abondante, comme tu le promets. Le Seigneur aimerait ce soir et au début de cette année vous encourager à sortir de toute forme de vie minimaliste, de vie renfrognée sur vous-même, où vous êtes tout juste en mode de survie. J'aimerais proclamer ce soir que le Dieu qui dit « Je suis celui qui donne la vie abondante », c'est pour toi aussi. Et si tu vis dans une vie minimaliste où ça tourne tout juste et que le Seigneur veut te donner quelques clés, une inspiration nouvelle. Et j'aimerais te conduire dans ce deuxième point, là où ce soir il y a un rendez-vous pour que nous puissions passer du mode de survie à la vie abondante, à la vie où il y a une multiplication surnaturelle qui va se passer. Et là, il y a un rendez-vous. Ce n'est pas n'importe quel. Donc, le Seigneur nous dit, si tu es étranger aux alliances, fais alliance avec moi. Entre dans l'alliance. Le Seigneur se souviendra toujours de son alliance. Et le jour où tu es dans un besoin criant, tu peux dire, Seigneur, je suis dans l'alliance avec toi et tu m'as promis à cause de l'alliance de toujours être de mon côté et de m'en sortir. Et vous allez voir l'action du Seigneur. Oh, il y aurait tellement de choses à raconter si je pouvais vous faire une interview avec vous. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de choses que vous pourriez vous-même raconter où Dieu a pourvu alors que vous étiez à l'extrémité de quelque chose, dans le besoin de quelque chose. Mais si ce soir quelqu'un se trouve justement dans une extrémité, je voudrais que ce soir vous ayez une confiance totale dans le Dieu qui est votre providence, qui promet d'être fidèle à notre alliance. Et maintenant le deuxième point. Nous lisons dans la Genèse au chapitre 22. Genèse 22. Et nous allons parler courtement d'Abraham. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit à Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sala son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit de sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père !» Lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit l'autel, déposa le bois. Il ligota son fils à Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas la main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai connu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dira aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans son alliance, il sera pourvu. Dans ta marche étroite avec Dieu, il sera pourvu. Et ce que j'aimerais courtement évoquer au travers de ce texte qui parle de lui-même, bien sûr. Il y aura dans la vie d'Abraham cette épreuve ultime, l'épreuve des épreuves. Et je me suis dit, mais Abraham, il devait être vraiment certain que Dieu lui avait parlé de cette manière. Donc ça montre clairement une chose, c'est qu'il avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Vous n'allez jamais entendre un tel message si vous n'êtes pas habitué à entendre la voix de Dieu. Vous allez dire, mais ça c'est mon invention, ça c'est en tout cas, ça vient du diable. Ça vient pas de Dieu, mais il savait que ça venait de Dieu parce qu'il connaissait dans sa marche intime, il était appelé l'ami de Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Il s'est certainement effrayé en disant, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu que ce fils pour lequel j'ai tellement attendu, tellement prié, et qui s'est fait attendre, et qu'enfin il est là, et tu ne vas pas me demander ça, c'est juste impossible. Mais Abraham comprend que la foi est liée à l'obéissance. Mes amis, écoutez, la foi et l'obéissance ensemble vous donnera de vivre quelque chose avec Dieu, une expérience avec Dieu. L'expérience avec Dieu, ce n'est pas juste ressentir quelques bien-être supplémentaires. Une expérience avec Dieu, ce n'est pas avoir du fun. Une expérience avec Dieu, c'est connaître Dieu davantage, c'est ça. Une expérience avec Dieu, ça sert à ça, pour le connaître davantage. Abraham va connaître Dieu comme il ne l'avait jamais connu, au travers de cette expérience qui était un test de souffrance. Ceux qui ont passé par un test de souffrance, ceux qui ont passé par une souffrance, ceux qui ont versé des larmes, ceux qui ont vu le brisement intérieur, vous avez une expérience supplémentaire de Dieu. Vous pouvez témoigner de cette expérience plus que de toute autre chose, parce que c'est là que vous avez vécu la présence de Dieu, le secours de Dieu, l'aide surnaturelle, la consolation, la force de Dieu d'une manière spéciale, que vous ne pouvez pas oublier parce que vous avez passé par le test de la foi, de l'obéissance. Vous n'avez pas lâché la main de Dieu dans votre souffrance. Vous n'avez pas renié votre foi dans la souffrance. Vous n'avez pas tourné le dos au Seigneur parce que vous avez un problème et une question sans réponse. Mais parce que vous avez passé le test et que vous êtes sorti de ce test, grandi en maturité, c'est là que vous avez fait l'expérience d'un Dieu et de sa nature et de son nom, car chaque nom de Dieu représente une réponse à nos besoins. Alléluia. Le nom du Seigneur, c'est le Dieu qui pourvoit tes besoins. Et ici, il va pourvoir aux besoins d'Abraham. Mes amis, le plus grand besoin pour nous, et beaucoup ne le savaient pas, et je suis sûr que notre ami Abraham ne le savait même pas pendant toutes ces premières années de recherche et d'errance dans la foi, il ne savait pas qu'il avait besoin de salut. Moi non plus, je ne savais pas que j'avais besoin de salut. Mais Dieu nous dit, ton premier besoin auquel je vais pourvoir, c'est ton salut. C'est le salut de ton âme. Je veux que le ciel soit rempli de ta présence et je ferai tout pour que tu ailles au ciel avec moi et je vais pourvoir à cela. Mais pour cela, je te conduis vers un lieu qui s'appelle Morija, le Morija spirituel, qui s'appelle Golgotha, le Golgotha où mon fils n'a pas été enlevé de la croix pour que quelqu'un d'autre meure à sa place, mais lui-même est resté comme l'agneau de Dieu qui a été mis à mort pour que tu sois sauvé. C'est comme ça que j'ai pourvu à ton premier besoin. Mon Dieu pourvoira à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À Golgotha, il sera pourvu. À la croix, il sera pourvu. À l'autel dans lequel tu es invité à venir ce soir, il sera pourvu. Et pour vraiment vivre le salut, Isaac pouvait dire, « Ouf, j'ai eu chaud, hein. C'était moins une. J'ai été sauvé in extremis par le bélier qui était là. » Mes amis, pour vraiment goûter au salut, pour vivre le salut, nous devons nous-mêmes venir et vivre l'expérience d'être sur l'autel nous-mêmes. Si tu abandonnes ta vie sur l'autel, si tu mets ta vie sur l'autel, c'est là que tu vas vraiment faire l'expérience que Dieu va pourvoir. C'est lorsque nous sommes à la croix que nous pouvons réaliser à quel prix le Seigneur m'a sauvé. Parce qu'à la croix, il a réuni l'amour et la justice en lui-même. Il a voulu nous aimer coûte que coûte et d'une manière inconditionnelle, mais il ne pouvait pas renier sa justice. Et pour combiner les deux, il fallait que le Fils pur et saint, qui n'avait jamais goûté au royaume du péché, devait entrer dans ce royaume terrible et impur, souillé par le péché. Il devait prendre ce péché, il devait devenir péché, nous dit l'Écriture. Il devait se charger du péché du monde pour que moi qui suis habitué à ce monde impur, je puisse connaître le royaume de la pureté, du royaume de Dieu et du salut. Il fallait que lui prenne ma place pour que moi je puisse entrer dans le royaume du salut, le royaume de Dieu, et recevoir la vie éternelle et le pardon, la délivrance. Mes amis, Dieu a pourvu à mon salut, mais à quel prix a-t-il pourvu? Il devait offrir son fils. Isaac s'en est sorti, mais Dieu voulait dire à Abraham, tu vois ce que tu as ressenti là, moi je le ressentirai 2000 ans plus tard, à peu près, quand j'offrirai mon fils, mais lui ne partira pas. Il n'y aura pas un bélier qui prendra sa place. Lui va donner sa vie lui-même pour toi, pour le monde entier. Le Père pourvoit à ton plus grand besoin, le salut. Mes amis, j'aimerais qu'au début de cette année, nous ayons cette assurance que Dieu a toujours pourvu, que c'est son nom et que c'est dans l'alliance qu'il va pourvoir et que vraiment le rendez-vous pour que nous puissions saisir cela et aimer Dieu, l'adorer encore davantage, c'est à Morija qui a rendez-vous. Là où Abraham est monté, j'aimerais que on puisse aller un moment plus près encore vers Golgotha et que nous puissions là non seulement contempler le sacrifice du Seigneur, mais nous-mêmes nous mettre sur l'autel et donner nos vies. Nous-mêmes donner nos vies. Si tu donnes ta vie, tu vas rentrer dans l'alliance. Et le Seigneur te dit, donne ta vie, je t'ai déjà donné ma vie, j'attends que tu donnes la tienne. Alors nous serons en alliance et je vais toujours pourvoir à tes besoins. Je termine ce message en vous conduisant dans un dernier texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 9, et nous allons ensuite prier. Verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant tout, toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Dieu veut pourvoir à tes besoins pour que tu puisses voir à quel point tu es béni, à quel point Dieu est large avec toi, à quel point il est généreux, à quel point il fait au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, pour que à ton tour tu apprennes de sa générosité, tu apprennes de sa providence pour devenir aussi providence pour d'autres, pour devenir bénédiction pour d'autres. Tu as besoin d'un petit quelque chose, j'aimerais te donner une portion supplémentaire. C'est comme ce petit garçon qui était dans un magasin où autrefois on plongeait sa main pour recevoir un bonbon d'un grand bocal. Et lorsque l'épicier disait à maman qui passait pour faire les commissions, « Ah, le petit est là, viens, prends un bonbon. » Et voilà que le petit ne veut pas prendre de bonbon. Il dit, « Mais prends. » Pour finir, il ne veut pas prendre. Alors c'est l'épicier lui-même qui prend une poignée et lui donne quelques bonbons. Et puis la maman dit, mais pourquoi tu ne voulais pas prendre quand il a demandé que tu prennes un bonbon? Il répond, mais je voulais attendre pour que lui me donne parce que la main de l'épicier est plus grande que la mienne. La main de Dieu est plus grande que la tienne. Il va te donner en abondance, pas pour toi-même, pour que ça passe par toi. Tu connaisses le Dieu de la providence et que tu partages sa bonté à quelqu'un d'autre.